entrevoix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Bonjour, aujourd'hui pour les autres voix de la presse, donc nous sommes à Mel pour le village de l'eau et nous sommes avec Clément de Feu, le sans-culotte 85. Bonjour Clément.
Bonjour.
Donc ben voilà, on s'est rencontrés là, tu nous as amené des numéros justement à diffuser sur le village de l'eau puisqu'on représente aussi le syndicat de la presse Pas Pareil. Et ben on a reçu une mauvaise nouvelle il y a quelques semaines, c'est-à-dire la fin du sans-culotte 85 avec le tout dernier numéro, donc titré en une, le sans-culotte 85 s'autodissout. Merci, bisous, c'est donc le numéro 169. Ben écoute, je crois que tu as participé depuis longtemps justement au sans-culotte. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous fonctionniez et puis également en gros comment vous en êtes arrivé à ce dernier numéro?
Oui, alors moi je suis arrivé au Sans Culotte il y a 5 ans en 2019. C'est un journal qui a été créé en 2007 par Marie Coq et Guillaume Fontenot, son compagnon, donc deux journalistes qui ont créé ce journal en Vendée avec le pari assez simple et compliqué à la fois. De lancer et tenir un journal complètement indépendant, donc sans publicité, sans subvention, sur un territoire aussi particulier que le département de la Vendée. Donc le Sans Culotte était, du coup il faut parler au passé maintenant, était un mensuel voilà, qui a existé pendant 17 ans, un mensuel de 16 pages avec comme ligne éditoriale, disons, de faire des enquêtes sur des sujets variés sur la Vendée, sur des choses qu'on ne lisait pas ailleurs, et de gratter un petit peu le titiller, on va dire, le landerneau politique, économique de la Vendée. Donc on a effectivement terminé avec ce numéro 169, avec cette formule, voilà, merci, bisous, qui était une manière assez sobre de montrer la proximité qu'on avait avec le public, les lecteurs qui nous ont suivis pendant quasiment 18 ans.
Et justement, dans ce dernier numéro, vous expliquez un petit peu autant la vie, mais également le rythme, tout le travail qui incombe, parce que c'était un mensuel, et comme beaucoup de médias locaux, alternatifs, libres, en gros, vous êtes des médias vous n'avez pas énormément de moyens, et puis il y a des questions économiques, il y a aussi des questions d'épuisement, donc ce dernier numéro, c'est un peu ce que vous nous expliquez.
Exactement. En fait, le journal, comme beaucoup de titres, hein, reposait sur quasiment le dévouement de quelques personnes. En l'occurrence, nous étions deux journalistes et Marie Coq, donc la rédactrice en chef, qui a porté à bout de bras le journal pendant des années. Et là, on était effectivement plus que deux journalistes. Une troisième personne, Fanny Ravon, qui s'occupe de la maquette et également des tâches administratives, mais effectivement c'est pas beaucoup pour créer un journal de 16 pages tous les mois pour sortir les enquêtes, faire les articles. Il y a effectivement un moment où ça fatigue pas mal. Alors nous on l'explique dans le dernier numéro, il y a deux phénomènes, disons, que depuis quelques années on a subi, comme l'ensemble de la presse écrite, une baisse des ventes. C'est-à-dire que le journal tirait au plus fort jusqu'à 6200 exemplaires sur le département de la Vendée. Il y a eu une période assez faste dans les années, on va dire, 2010-2017, sur ces années-là. Et puis en 2019, le journal a fait une pause de quelques mois pour se restructurer un petit peu, trouver une rédaction, puisqu'il n'y avait pas de rédaction auparavant. Donc, pour montrer qu'effectivement c'est un journal qui tenait bien, mais avec un fonctionnement qui parfois était encore un peu artisanal, donc qui repose sur un petit nombre de personnes. Et puis ces dernières années, avec notamment le Covid, avec la désaffection de la presse papier, la hausse de tous les coûts qu'on peut imaginer, imprimerie, distribution, la poste, voilà, ça commençait un petit peu à tirer, on avait effectivement une baisse des ventes, et puis l'aspect moral aussi qui joue effectivement. Quand on tient à deux un journal comme ça, sortir tous les mois des enquêtes qui sont pas évidentes, et ben on s'épuise. Voilà. Donc c'est ce qu'on explique dans le dernier numéro, il y avait de la fatigue, et puis peut-être aussi la fin d'une certaine époque, dans une certaine presse. Voilà. Bon, c'est triste, mais on a fait, en tout cas le choix a été décidé de manière résolue, quoi.
Comment est-ce qu'on travaille quand on sort un journal mensuel? Parce qu'une fois que le journal, le numéro est paru, il y a encore tout le travail de diffusion, de communication. Et après, la recherche d'informations, est-ce que vous, justement, vous partiez un peu de partout en Vendée à la recherche d'informations? Est-ce que vous aviez, entre guillemets, des correspondants locaux? Parce que justement, vous avez un rythme quand même assez soutenu entre la rédaction, enfin l'enquête, la rédaction, l'impression. Il n'y a pas de temps à perdre.
Non, c'est sûr. Alors, au fil des années, l'implantation du journal sur le département, qui était devenue assez forte, faisait qu'il y avait effectivement un réseau de personnes sources, informateurs, informatrices, assez développé sur quasiment les quatre coins du département, qui nous envoyaient des infos. Alors après, à charge à nous de les traiter, de les trier évidemment, de les vérifier. Donc ça demandait un gros boulot, mais on avait beaucoup de remontées par ce biais. Et puis après, si on souhaitait nous-mêmes faire des sujets, on le faisait. Mais chaque mois, le rythme était hyper soutenu, puisqu'effectivement, on recevait un certain nombre d'infos qu'on devait vérifier, recouper, pour ensuite quasiment. Deux semaines avant le bouclage, se décider à la maquette, donc aux 16 pages. Et puis voilà, c'était un éternel recommencement. Sur la diffusion, alors depuis quelques années, il y avait un réseau de diffusion via des sociétés de routage, comme on appelle, qui distribuaient le journal partout. Donc dans les bureaux de tabac, évidemment, dans les maisons de la presse, mais aussi dans les supermarchés. Donc on pouvait retrouver le sans-culotte dans tous les supermarchés de Vendée. Donc ça, c'était une manière. Ça a été un moyen d'être vraiment présent partout. Et puis la communication, alors on avait développé un site internet justement il y a quelques années, voyant que les ventes papier chutaient. On avait développé un site avec une version numérique, mais là c'est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... On était la même équipe à gérer ça, c'est-à-dire les deux. Donc en fait, on faisait à la fois le papier, des articles pour le site, la communication sur les réseaux, donc on imagine bien que ça devient ingérable en fait.
Et le sans-culotte, c'était également énormément d'illustrations. Donc il y avait une équipe d'illustrateurs qui travaillait avec vous, qui était sollicitée pour chaque numéro et qui dessinait, illustrait en fonction des articles. Donc là aussi, je pense qu'au niveau de timing, ça demande d'être très très organisé. Vous aviez beaucoup comme ça d'illustrateurs. Alors je me souviens, là dans le dernier numéro, elle n'y est pas. C'était d'habitude une double page avec énormément d'illustrations, donc sur des faits d'actualité, sur les articles. Là pour ce dernier numéro, vous avez repris la carte de la presse pas pareil, donc édité par le journal L'Âge de Fer. Est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi est-ce que dans ce numéro il n'y a pas eu la double page d'illustration? Et puis justement, comment ça se passe quand on travaille comme ça à flux tendu avec des illustrateurs également?
Alors, au total, on avait effectivement une trentaine de dessinateurs, dessinatrices qui travaillaient pour le numéro, pour le sans-culotte, pardon, chaque mois. Effectivement, sur les sujets qu'on faisait, on leur soumettait le sujet et les dessinateurs et dessinatrices faisaient leur dessin en fonction du sujet. Et effectivement, depuis quelques années, ça s'est fait au moment du Covid. On a décidé de faire de la page centrale, la double page centrale, une page dédiée au dessin d'actu, effectivement, puisqu'on en recevait beaucoup au moment du Covid. Et on se disait que c'était une manière de valoriser le travail des dessinateurs et dessinatrices. Et puis aussi, ça permettait de traiter, enfin qu'il y ait un traitement par un biais différent, particulier, de certains sujets qu'on ne traite pas dans le journal puisqu'on avait des sujets très locaux. Donc ça permettait d'avoir un regard sur un petit clin d'œil sur l'actualité nationale, internationale, à travers ces dessins qui plaisaient globalement bien. Voilà, il y avait un petit pas de côté qui était intéressant. Et dans le dernier numéro, alors on n'a pas fait ça. Effectivement, ça s'est décidé assez rapidement, comme c'était l'ultime numéro. On voulait rendre hommage à la presse dite pas pareil de manière globale. Donc on s'est dit on va plutôt diffuser cette carte pour laisser une trace un petit peu. Voilà, ça s'est fait comme ça. C'était pas parce qu'on ne voulait plus avoir de dessin, mais ça permettait dans le dernier numéro d'avoir un peu cette carte poster et montrer aux gens, aux lecteurs, lectrices, toute la diversité, la variété des médias indépendants à travers la France, qu'on n'imagine pas forcément. Voilà, c'était ça un petit peu le but.
J'avais une question, parce que c'est abordé également dans un des articles donc, du dernier numéro, hein, numéro 169. Donc, je répète, le sans-culotte 85, le canard vendéen qui ne joue pas les faillots. Justement, c'est vers là que je veux aller. Vous aviez également, souvent vous étiez sur des dossiers qui concernaient des élus, vous aviez quel rapport un peu avec justement la classe politique locale ? Est-ce que vous continuez à recevoir les infos ou est-ce que comme certains médias, vous ne receviez plus rien ? On voit qu'il y a des médias qui sont non pas censurés, mais mis de côté, lesquels les préfectures, les mairies ne veulent plus communiquer, ne veulent plus discuter à force comme ça. Est-ce que c'était justement également des situations tendues avec les élus? On voit, il y a un témoignage qui explique aussi l'évolution des fois des échanges avec les élus en fonction de leur responsabilité, enfin, ou de leur poste.
On a vécu effectivement la même évolution que ce que tu décris, c'est-à-dire que sur un certain nombre d'années, il y avait des relations avec les élus, avec les organismes, les autorités, la préfecture, qui étaient, on va dire, normales. En tout cas, il y avait des échanges. En ce qui concerne les élus plus précisément, il y avait effectivement des rapports qui étaient assez francs, assez directs, qui permettaient de faire réagir des élus lorsqu'ils étaient mis en cause, de discuter vraiment directement avec eux, avec ces élus-là. Donc ça marchait plutôt bien. Et on a vu un inversement des choses ces dernières années. Alors on ne sait pas très bien pourquoi, mais effectivement, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une tendance à verrouiller, à gérer totalement la com, qu'il s'agisse